Il y a quelques mois, j'ai déjeuné avec ma copine Isabelle Régnier qui suit l'architecture pour le journal Le Monde. Au milieu de la discussion, Isabelle me dit « Ah, mais tu devrais t'intéresser au numérique dans l'architecture, à tous ces bâtiments spectaculaires qu'on a créés avec des logiciels, et puis aussi à cette croyance qu'on a eue qu'on allait renouveler les formes grâce à l'informatique. J'ai l'impression qu'on en revient. » Ouais, c'est vrai, ce serait intéressant de s'y pencher, sauf que je ne connais rien à l'architecture.
Le code a changé.
Alors, Isabelle me donne le numéro d'une dame, Françoise Fromono, qui est architecte, professeure en école d'architecture et critique très reconnue. J'appelle Françoise Fromono, qui commence par me dire qu'elle n'est pas spécialiste de la question numérique, mais qui, quand même, en une demi-heure, me fait une histoire de l'informatique en architecture. Et en effet, c'est passionnant. C'est passionnant, mais compliqué. Parce que je comprends que ça ne concerne pas seulement les bâtiments spectaculaires qu'on a vu apparaître dans les années 90, ceux d'architectes superstars comme Frank Gehry, Zaha Hadid ou Rem Koolhaas. Je comprends que c'est une vieille histoire qui commence dans les années 1960, qu'il y a plein d'étapes dans cette histoire, qu'aujourd'hui, toutes les agences utilisent non seulement des logiciels pour dessiner, mais aussi des outils numériques de modélisation 3D. Je comprends donc que le numérique intervient à plein niveau du processus complexe que sont la conception et la construction d'un bâtiment. Et je comprends surtout que l'utilisation du numérique a une conséquence directe sur les lieux que nous voyons, que nous habitons et qu'il est pour quelque chose dans ce que Baudelaire appelait joliment la forme d'une ville. Je commence à comprendre tout ça, donc, mais je cherche toujours quelqu'un qui ait pris le sujet à bras-le-corps. Et puis, un jour, je discute avec Pierre Depaz, jeune thésard que j'ai invité à venir parler de l'esthétique du code. Et il me dit « Ah, mais j'ai la personne qu'il te faut ». Elle s'appelle Nadja Godiller-Jami. Non seulement elle est architecte, hein, mais elle a soutenu une thèse il y a 2 ans exactement sur ça, et elle est super forte. Je contacte donc Nadja, on discute. En effet, elle est super forte. Et je comprends en l'écoutant que c'est encore plus compliqué que je ne le pensais. Parce que, défend Nadja, pour prendre la mesure de ce que fait le numérique à l'architecture, eh ben, il faut aller vraiment voir ce que font ces programmes qui sont utilisés par les architectes. Sur quelle idée des formes et de l'espace ils reposent, qui les développe, qui les vend, etc. Et je sens qu'il y a quelque chose d'assez politique dans les propos de Nadja. Enfin, de politique dans le sens où la politique, aujourd'hui, elle se trouve aussi dans les algorithmes. Et ça, ça me plaît.
Yes, it's fucking political. Everything's political.
On finit par prendre rendez-vous, ce qui n'est pas simple parce que Nadja enseigne au Danemark et la voici enfin à la maison de la radio. Et là, il se passe quelque chose d'étrange. On se perd. On met 20 minutes à trouver le studio dans lequel on doit enregistrer. Et je ne peux pas m'empêcher de voir ça comme un présage. Peut-être le présage que, quelle que soit la direction que prendrait cette discussion, eh ben, on n'arriverait pas au bout. On errerait un peu, par ma faute, hein, comme c'est par ma faute qu'on erre dans les couloirs de la maison de la radio, parce que le sujet de l'architecture est aussi vaste et complexe que le bâtiment dans lequel j'essaie de guider Nadja, un bâtiment rond qui plus est, où « arriver » peut signifier « revenir au point de départ ». Mais bon, on finit par trouver le studio et par s'installer. Et là, je me souviens que Nadja, pendant notre discussion au téléphone, quelques mois auparavant, m'a dit quelque chose qui ne cesse de trotter dans ma tête depuis. Nadja m'a expliqué que quand elle voit un bâtiment, elle est presque capable de deviner le logiciel qui a servi à le dessiner. Alors moi, je trouve ça dingue. Et je lui demande comment c'est possible.
Bah ouais, c'est une très bonne question. Alors, il y a 2 choses. Il y a la version facile qui est qu'il y a une période où certains fabricants de fenêtres avaient donné leur modèle 3D à certains logiciels et pas à d'autres. Et donc, on pouvait reconnaître immédiatement, par exemple, les bâtiments qui sont faits avec des logiciels de la suite Autodesk, parce qu'il y a un certain modèle de fenêtre qui est intégré dans le logiciel. Et donc, en fait, quand les architectes font le modèle du projet, bah, ils utilisent les fenêtres qui sont préenregistrées et donc on les reconnaît. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que tous les logiciels, ils ont fait des choix mathématiques sur comment on décrit les formes. Et il y a des logiciels qui font le choix de décrire, par exemple, pas beaucoup de formes courbes. Et il y a d'autres logiciels qui font le choix inverse. Et donc, quand on voit un bâtiment qui a plein de courbes, bah, la manière dont sont faites les courbes, on peut reconnaître les maths qui sont derrière. Et donc, on peut reconnaître de quel logiciel ça vient, parce que chaque logiciel a sa manière de décrire mathématiquement les courbes.
Bon, le coup des fenêtres, ça me paraît déjà assez balèze. Mais alors, reconnaître les maths qui sont derrière la forme des courbes, alors là, chapeau, je suis impressionné. Mais sans du tout vouloir diminuer le talent de Nadja, est-ce qu'il y a tant de logiciels que ça à disposition des architectes ?
Non, il y en a 3 ou 4 des grands logiciels que tout le monde utilise et c'est super déséquilibré. Bon, par exemple, les logiciels d'Autodesk, ils ont 80% du marché. Et après, il y a 3 ou 4 plus petits logiciels qui ont des particularités, notamment sur les courbes, qui sont utilisés sur des gros projets spécialisés.
Ok, il n'y en a pas 15 000 non plus. Hein. Mais ce qui m'intrigue dans ce que dit Nadja, c'est pourquoi certains architectes ont eu besoin des logiciels pour des programmes spécifiques. Qu'est-ce qu'elle entend par là ?
À partir des années 70-80, il y a les déconstructivistes, qui sont une série d'architectes américains qui travaillent avec une espèce de décomposition géométrique des formes. Daniel Libeskind, qui a fait le musée juif de Berlin, c'est peut-être le plus connu d'entre eux. Et de ça, ils sont passés vers un certain travail avec des formes courbes et avec des formes courbes super diverses. Et Zaha Hadid, c'est une des plus connues, ou Franck Guéry, qui a fait la Fondation Louis Vuitton à Paris. Sauf qu'à travailler comme ça avec des courbes et à voir la profession se numériser, bah, ils ont commencé à vouloir faire des modèles 3D, aussi parce que ça permet d'écrire plus facilement ces courbes avec lesquelles ils veulent travailler. Et donc, par exemple, Franck Guéry, il est allé voir Dassault et Katia, qui étaient un des grands logiciels de modélisation pour les ingénieurs, et il a travaillé avec eux pour créer une version adaptée à son travail à lui.
Intéressant, hein, cette histoire de Franck Guéry qui va demander à Dassault de lui développer un logiciel parce que l'entreprise sait fabriquer des pièces arrondies pour les moteurs notamment, j'imagine. Et je sais d'ailleurs que d'autres architectes sont allés chercher d'autres types de logiciels dans la joaillerie, par exemple, pour la même raison, exactement. Mais en revanche, je comprends pas bien cette insistance sur les courbes. Pourquoi, à un moment, des architectes qui veulent des courbes ont-ils eu besoin de logiciels spécifiques ? Bon, moi, il me semble que la courbe dans les bâtiments, elle n'est pas née avec l'informatique, hein, loin de là. Donc, pourquoi soudain un tel besoin ?
Je me suis beaucoup posé cette question-là et j'arrête pas de repenser à l'opéra de Sydney, qui a été fait par Jørn Utzon, qui est donc cette série de quarts de cercle. C'est un des tout premiers bâtiments dont la géométrie a été calculée avec des ordinateurs. En gros, ils ont écrit les équations à la main pour comprendre comment on allait trouver la forme de ces grandes coques. Et ensuite, c'était tellement long et difficile à faire à la main qu'ils ont juste automatisé le calcul à l'ordinateur. Pour l'opéra, ça aurait pris genre des années de faire le calcul et ça leur a pris que plusieurs semaines, parce que c'était il y a assez longtemps, de le faire à l'ordinateur. Il y a un premier argument qui est de dire bah, en fait, on peut faire des choses beaucoup plus complexes parce qu'on peut calculer plus vite. Ensuite, il y a le fait de dire bah, si je dessine une courbe sur une feuille comme ça, comment je documente cette courbe pour que des gens puissent la faire en vrai ? Et donc, il y a un accès à l'information qui n'est pas du tout le même dans le monde numérique pour l'architecture, parce que ce n'est plus une question de forme intuitive, c'est une question de calcul formalisé. Donc, en fait, je sais exactement comment décrire la courbe et donc je sais la reproduire. Ça, c'est ce que Franck Guéry voulait faire, par exemple. Parce qu'il a décidé qu'il était super fort pour faire ses maquettes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cet épisode des Simpsons, où il se moque de Franck Guéry en disant que, en fait, Franck Guéry, en gros, quand il veut faire un bâtiment, il prend une feuille, il la froisse, il la jette sur la table et il dit à ses équipes, c'est ça qu'on va faire.
Facture, facture, facture Bilbao. Une enveloppe Snoopy, tiens donc.
Cher monsieur Guéry, pourriez-vous construire un opéra pour notre ville ? On n'est pas la plus grande des villes, ni la plus belle, mais on a été la première ville d'Amérique à abandonner le système métrique.
Oh, Franck Guéry, tu es un génie ! Voici le nouvel opéra de Springfield. Oh. Sachez que ce projet n'aurait jamais vu le jour si je n'avais pas reçu une lettre d'une petite fille. Ouais.
C'est assez marrant quand même, hein. Guéry qui froisse la lettre que lui a envoyée Marge Simpson et qui voit soudain émerger la forme de l'opéra et puis après les 30 millions de dollars que coûte le bâtiment, la manière dont il est construit aussi, hein, parce que là dans les Simpsons, le bâtiment il est tout droit avant d'être déformé par des engins de démolition pour obtenir justement ces courbes bizarres. Et puis il y a les mômes de la ville aussi là qui font du skate sur les courbes.
Yo Franck Guéry, elles sont trop géniales tes montagnes russes mec.
Bon, moi, je vois dans tout ça un hommage à l'immense célébrité et importance de Frank Gehry dans l'histoire de l'architecture mondiale, même si les scénaristes foutent bien de sa gueule. Bon, cela dit, Nadja, elle fait un récit du processus qui est pas si différent que ça.
Bah, ça marche comme ça, sauf qu'il fait des maquettes avec ses équipes, et ensuite il scanne avec un scanner 3D tout le truc, et il se retrouve avec une version numérisée de la maquette avec son exacte géométrie. Et ensuite, il travaille pour trouver les équations mathématiques qui sont les plus proches de cette forme pour avoir une définition constructible de la forme qu'ils ont fait en maquette au départ.
Alors là, on voit bien comment l'informatique est une aide. Au moins à deux niveaux, d'ailleurs. Au premier niveau, elle permet de produire assez vite les équations définissant des courbes très complexes. La vitesse, hein. Toujours l'énorme avantage de l'informatique. Et puis, au second niveau, l'informatique permet de modéliser et donc de fournir ce que Nadja appelle une définition constructible du bâtiment. Bon, on voit très bien l'intérêt aussi. Donc, ce que l'informatique offre là, c'est une aide fonctionnelle. Ok, mais qu'en est-il des formes elles-mêmes ? Est-ce que ces logiciels permettent de faire des choses qu'on ne faisait pas avant ou qu'on ne se permettait même pas d'imaginer ?
Franchement, je pense qu'on est relativement fort pour imaginer des trucs tout seul. Par contre, je pense que ça donne accès à un plus grand espace. Ça multiplie la quantité de choses qu'on peut essayer, la quantité de formes auxquelles on a accès. D'abord parce que ça rend plus rapide l'exploration formelle. Et aussi parce qu'il y a un effet un peu de catalogue. Avant, on faisait un projet, on dessinait un plan, une coupe, une série de dessins précis pour décrire un objet. Et maintenant, on peut regarder 10 000 variantes de ce projet différentes super vite parce qu'en fait, c'est l'ordinateur qui décrit et génère en partie les formes. Donc il y a une espèce de monde infini de possibilités qui s'ouvre, qui est, je pense, plus long et plus difficile à explorer si on n'utilise pas le numérique.
Ok, mais encore une fois, est-ce que ça change les formes en elles-mêmes ? Si on poursuit avec l'exemple de Frank Gehry, le mec est né en 1929. Il a créé son agence en 1962. Est-ce qu'on peut dire qu'entre le moment où il n'avait pas ses logiciels à disposition et celui où il les a eus, il y a eu une évolution dans les bâtiments qu'il a construits ?
Gehry, c'est un super bon exemple pour ça parce qu'il y a une rupture dans le travail de son agence entre le moment où ils ont commencé à expérimenter un tout petit peu avec les outils numériques pour voir ce qui était possible. Et je crois que c'est le Guggenheim de Bilbao qui est le premier où ils ont tout fait en numérique. Et le projet qu'il y a juste avant, qui est je crois le Weizmann Art Center qui est aux États-Unis, c'est le dernier projet qu'ils ont fait en gros essentiellement en analogue. Et c'est super difficile architecturalement de voir une différence concrète entre ces deux projets.
Ah ouais.
Ce qu'on voit un tout petit peu qui a changé, c'est que les matériaux et le dessin très précis des courbes est légèrement différent. On voit que le musée Weizmann, en gros, c'est des solides platoniciens ou des géométries qui sont relativement faciles à maîtriser et mathématiquement à décrire. Mais c'est des collages de ces formes-là. Donc on a déjà un effet hyper complexe et libre formellement. Et après, à Bilbao, on voit que c'est d'autres familles de courbes, mais la différence est vraiment super légère. Il faut aller regarder de près les formes des blocs qu'il a dans ses bâtiments pour voir la différence.
Alors ça, c'est passionnant. Parce que si je reformule dans mes mots, ça signifie que le numérique ne crée pas une rupture si on s'en tient à ce qu'on voit. Simplement, ces formes générales, celles qu'on perçoit, elles ne sont pas obtenues de la même manière. Dans le bâtiment pré-numérique, elles sont obtenues par un assemblage de formes simples, ce que Nadja appelle des solides platoniciens, c'est-à-dire des sortes de formes élémentaires, quoi, cercle, triangle, pentagone, etc. Alors que, à Bilbao, premier bâtiment numérique, les courbes sont là originellement. Elles ne sont pas le produit d'un assemblage. Mais du coup, ça pose une question. Est-ce qu'on pourrait dire que Gehry a toujours cherché ses formes, mais qu'aujourd'hui, grâce à l'informatique, il passe juste par des moyens différents pour obtenir le même effet esthétique ?
Ouais, et même le même effet spatial, je pense, dans une certaine mesure. C'est pour ça que j'aime bien Gehry, parce qu'en plus, il s'est fait un nom comme un architecte du numérique, alors qu'en fait, c'est peut-être l'exemple le plus évident qu'au fond, c'est pas sûr que le numérique, ça change tant de choses que ça.
Alors, je trouve qu'il y a là une sorte d'allégorie de ce que fait le numérique à nos vies. À savoir que, si on s'en tient au résultat, il y a une forme de continuité. Mais ce sont dans les processus qu'ont lieu les changements les plus profonds. Je fais le parallèle avec un domaine que je connais un peu mieux que l'architecture, qui est la fabrication d'une émission de radio. La différence qu'il y a entre le processus tel que je l'ai connu à mes débuts, au début des années 2000, où on enregistrait avec des nagras qui pesaient 20 kilos, sur des bandes qui ne duraient qu'un quart d'heure, qu'il fallait ensuite monter au ciseau, etc. Et le processus d'aujourd'hui, où je peux enregistrer avec un outil numérique qui pèse 300 grammes des heures en continu, que je peux monter sur un logiciel en faisant 200 000 fois la même coupe, eh ben la différence entre ces deux processus, elle est énorme. En revanche, je ne suis pas certain que le résultat, lui, il soit très différent. Ou alors, si la radio a changé depuis 30 ans, si on y parle différemment, si des sujets différents y sont abordés, ben c'est pas forcément le numérique qui en est la cause principale. Et je suis sûr qu'on pourrait faire exactement le même constat dans plein de domaines. Néanmoins, si je reviens à l'architecture, il y a une question. Pourquoi avoir recours à ces outils informatiques si ça ne change pas fondamentalement les formes ? Nadja a parlé tout à l'heure de la vitesse, de l'effet catalogue aussi, mais est-ce que ça ne change pas des trucs plus concrets comme, par exemple, l'économie, le rapport au client, au maître d'œuvre, enfin, je sais pas moi.
Alors, ça doit simplifier beaucoup de choses. Je pense notamment cette technique du scan d'une maquette qu'on a faite, ça donne un point de départ. Je sais pas dans quelle mesure il y a un effet de publicité dans le cas de Guéry, parce qu'ils ont, enfin, l'agence a une stratégie tout à fait établie sur comment on parle du numérique dans le travail de l'agence. Je pense que ça leur a donné accès à un certain nombre de matériaux, parce que ça leur permettait de travailler certains matériaux avec des moyens numériques. Quand ils ont fait la fondation Louis Vuitton, le cœur, donc la partie blanche du bâtiment avec les carreaux, c'est des carreaux en béton, et ils sont, je crois, presque tous différents. Et en fait, pour ça, il faut des modèles de toutes les pièces différentes, il faut pouvoir les fabriquer. Mais l'idée, il y avait une idée qui était d'avoir des moules en silicone, comme pour faire des gâteaux, qui sont déformables, et qu'il y allait avoir des pistons qui faisaient bouger le moule en silicone pour qu'il ait exactement la forme de la tuile. Et comme ça, on peut utiliser les mêmes moules pour tout, on change juste la position des pistons. Mais l'information qu'il faut pour faire ça, si on n'a pas numérisé toute une partie de ce qu'il y a avant, en fait, on l'a pas.
C'est hyper intéressant. Parce que ça ouvre un autre pan de la réflexion. Le fait que le numérique donne la possibilité d'utiliser différemment les matériaux. Les pistons là qui produisent des plaques de béton toutes différentes, j'imagine que ce sont des commandes numériques qui le permettent. Donc, ça joue sur ce qu'on peut faire avec les matériaux, sur l'usage des matériaux.
Il y a une idée que les architectes qui travaillent avec le numérique répètent beaucoup, qui est que le numérique, ça leur permet de renouer avec certaines techniques de fabrication.
Genre ?
Par exemple, un robot ou une imprimante 3D, on peut modéliser en 3D ce qu'on veut faire et travailler ce modèle 3D jusqu'à avoir l'information qu'on donne au robot ou à l'imprimante 3D pour faire cette forme. L'idée, c'est que dans toute cette série de logiciels, en fait, les architectes, ils ont accès aux informations qui correspondent au processus de fabrication. Là où, s'ils font du béton aujourd'hui, ils vont donner des plans à des gens qui vont prendre des branches et couler l'objet. Et donc, il y a une espèce de rupture au moment où on donne les plans à un autre corps de métier. Et il y a plein d'architectes qui considèrent que le numérique, ça leur permet de beaucoup mieux savoir ce qu'il y a après. Parce qu'en fait, le numérique, ça ne sert pas juste à faire des formes en 3D, ça sert aussi à guider des machines.
Là, ce que dit Nadja illustre une chose que j'avais commencé à comprendre en discutant avec Françoise Fromono et en lisant la thèse de Nadja. Quand on pense numérique et architecture, on pense à des programmes qui aident à dessiner. Bon, il y a ça. Mais en fait, le numérique, il intervient à plein d'autres niveaux. La modélisation, on l'a vu, mais aussi, comme Nadja vient de le dire, le guidage des machines. Et c'est vachement intéressant que des architectes qui se dotent d'imprimantes 3D pour faire des maquettes aient l'impression de renouer avec le matériau, d'atténuer la rupture entre la conception et la construction, parce que en devant donner des instructions à leur imprimante 3D, ils se retrouvent à être eux-mêmes des sortes de constructeurs. J'avais pas du tout pensé à ça. Alors là, pris dans l'enthousiasme de ce qu'elle me raconte, je dis à Nadja que je trouve ça très beau, et puis très contre-intuitif, que le numérique, que l'on associe souvent à l'immatériel, permette précisément de renouer avec la matière.
Ouais, et d'ailleurs, je pense que c'est complètement faux. Si on regarde comment on fabrique des bâtiments aujourd'hui, on est toujours dans cette opération de transmettre des plans. Donc déjà, il y a un transfert général qui ne s'est pas fait. Et l'autre chose, c'est que quand on est architecte, il y a un fossé à franchir à chaque projet, qui est le moment où le projet quitte le papier pour arriver dans la réalité physique. C'est un déchirement, c'est une rupture à chaque fois de réaliser que, en fait, ça sera jamais ce qu'on avait dans la tête, le projet. Et donc, il y a un saut vers la réalité physique. Ce fossé-là, on peut utiliser autant de robots et d'imprimantes 3D et de logiciels de modélisation. Il disparaît jamais, parce que le travail d'un architecte, c'est de matérialiser des choses. Et donc, il y a une forme de rupture entre ce qu'on a dans la tête et la matière qui sera là à la fin, qui disparaît jamais.
Ok, mais peut-être que sans le supprimer, on peut quand même réduire ce fossé et que, paradoxalement, eh ben, c'est le numérique qui le permet. Ce qui explique d'ailleurs que beaucoup d'architectes se soient intéressés au Fab Lab, ces ateliers collectifs là où on partage des machines, et que de plus en plus d'agences se dotent d'imprimantes 3D et autres outils qui permettent d'expérimenter sur la matière. Mais là, je repose toujours la même question. Est-ce que le fait que les architectes aient l'impression, même fausse selon Nadja, de se rapprocher de la matière, est-ce que le fait qu'ils puissent faire des maquettes avec des imprimantes 3D, eh ben, ça change quelque chose aux formes, aux bâtiments?
Forcément, il y a une vraie question du rapport à la matière pour les architectes quand ils conçoivent leur bâtiment, parce qu'il y a, il y a une expérience de la matière, si c'est possible que ça vienne. Mais je pense que sur qu'est-ce qui est possible ou pas, il y a une vraie question sur la complexité de ce qu'on peut produire.
Oui, justement.
J'ai un collègue qui dit toujours bah, le maniérisme et le gothique, c'était déjà assez complexe, donc je vois pas pourquoi on dit que le numérique permet la complexité. Alors je pense que ça la facilite quand même, et je pense que c'est un certain type de complexité, parce que tout ce qu'on produit qui est basé sur un algorithme, ça a une certaine logique.
Il y a une chose vraiment très belle dans cette idée que le numérique n'aurait pas apporté plus de complexité, parce que, après tout, ben, le gothique, c'est déjà complexe. Hein. C'est vrai, les bâtiments dont on a parlé jusqu'à maintenant, Guéry, etc., ils sont hyper complexes, d'accord. Mais le gothique, c'est déjà hyper complexe.
C'est un joyau du patrimoine bourguignon. Construite à partir de 1135, soit 30 ans avant Notre-Dame de Paris, Saint-Étienne-de-Sens est la première cathédrale gothique du monde. Pour s'en rendre compte, il suffit de contempler la nef.
On ne connaît pas le nom de l'architecte. On l'appelle le maître de Sens, le premier maître. Alors lui, ce qu'il a innové, eh bien, il a dû beaucoup voyager. Il a ramené les bonnes idées des pays anglo-normands. L'idée géniale, soit les piliers qui soient porteurs, grâce à cela, la croisée d'ogive. Les forces coulent sur les piliers, les murs ne sont plus porteurs, je peux faire de grandes ouvertures. Un art nouveau est né, qu'on appelle l'art de France à l'époque, et plus tard, l'art gothique.
Eh ouais. Tout ça alors qu'il n'y avait pas d'ordinateur, que parfois il n'y avait même pas d'architecte, parce que souvent, ben, eu égard au temps que nécessitait l'élaboration d'un bâtiment à cette époque, des générations se succédaient pour à la fois concevoir le bâtiment et le construire. Donc, ce qui fait la différence entre une cathédrale gothique comme Saint-Étienne-de-Sens et certains bâtiments d'aujourd'hui, construits grâce à des logiciels, ce n'est pas forcément la complexité en elle-même, mais le type de complexité. Ça, ok, je comprends. Mais Nadja, elle a dit un truc qui m'intrigue. Elle a dit « Tout ce qu'on produit qui est basé sur un algorithme, ça a une certaine logique. » Et là, je ne comprends pas exactement ce qu'elle veut dire. Donc, je lui demande de m'expliquer.
Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une fractale ?
Je vois, c'est des formes bizarres, là, un peu répétitives.
Exactement. Voilà. C'est des formes répétitives où c'est une forme sur laquelle il y a la même forme en plus petit, sur laquelle il y a la même forme en plus petit, sur laquelle il y a la même forme en plus petit. Et ça, si vous prenez une forme super organique, super courbe, le résultat final de cette fractale, il va avoir une dimension hyper organique. Mais il va aussi avoir une dimension hyper organisée, parce qu'il y a une logique à ce motif qui est que c'est une forme plus petite sur la même forme, etc., etc. Et je pense que dans le numérique, c'est très difficile d'échapper à cette organisation de la forme. Quelque part, on la reconnaît toujours. Et donc, je pense qu'en fait, il y a une complexité formelle dans les deux cas, mais qu'il y a une certaine forme d'organisation de cette complexité qui vient du travail avec le numérique, qui n'existe pas forcément quand on travaille à la main.
C'est très clair. La complexité du numérique n'est pas moindre, elle est juste plus logique. Et donc, même quand elle peut avoir l'air de quelque chose d'organique, eh ben, en fait, elle est plus mathématique, elle est plus organisée et donc plus reconnaissable. Ça, c'est passionnant. Mais il me manque encore un maillon du raisonnement. Qu'est-ce qui fait que l'ordinateur produise nécessairement un type d'organisation plus logique ?
Pas parce qu'un ordinateur, on est obligé de lui expliquer ce qu'on veut faire en termes logiques. Alors qu'un humain, si je dis à un humain « dessine-moi un pont », il va pouvoir dessiner un pont et faire à peu près ce qu'il veut tant que bah, y a une rive et puis l'autre et que le pont il passe d'une rive à l'autre. Si je dis à un ordinateur « dessine-moi un pont », l'ordinateur, il va rien faire du tout, parce qu'il sait pas ce que c'est qu'un pont, il sait pas ce que c'est qu'une rive, il sait pas où est la rive. Et donc, tout ça, il faut que je lui décrive pas à pas. Et les ordinateurs, ils comprennent ces instructions-là que dans un certain langage. Et ce langage, c'est de la logique. Donc ça va forcément organiser l'information d'une certaine manière.
Encore une fois, c'est très clair. L'informatique oblige à une organisation de l'information préalable à tout. Une organisation qui se fasse dans un langage que la machine puisse comprendre et qui est essentiellement logique. Encore une fois, je vois là comme une allégorie qui pourrait s'étendre à bien d'autres champs que l'architecture. Je me souviens avoir discuté, il y a bien longtemps, avec Bernard Chazelle, qui est un grand mathématicien et informaticien franco-américain, spécialiste de géométrie algorithmique, ça n'est sans doute pas un hasard. Bernard Chazelle, il m'avait expliqué qu'une des choses les plus difficiles à programmer en informatique, pour ne pas dire impossible à programmer, c'était le hasard, l'aléatoire. Parce que pour qu'un ordinateur produise de l'aléatoire, il fallait en quelque sorte expliquer logiquement les règles de l'aléatoire, ce qui est une sorte de contradiction. Bon, le raisonnement de Bernard Chazelle, il devait être sans doute un peu plus subtil que ça, mais c'est ce que j'en ai retenu, et il me semble retrouver la même idée dans ce que vient de dire Nadja. Il y a une logique propre à la complexité formelle quand elle est informatisée, qui n'est pas la même que celle produite par la nature ou par l'humain. Ça fait réfléchir. Et ça explique peut-être que quelqu'un comme Turing, un des pères fondateurs de l'informatique, se soit, à la fin de sa vie, intéressé à la morphogénèse, donc aux formes produites par la nature. Encore une fois, donc, j'ai l'impression d'entendre là une sorte de parabole sur l'informatique. D'ailleurs, j'ai l'impression que tous les raisonnements hyper intéressants que Nadja fait au sujet de l'architecture et de l'informatique, on pourrait les appliquer à plein d'autres secteurs que percute le numérique. Comme si il y avait quelque chose de matriciel dans cette rencontre entre l'informatique et l'architecture. Or, en parcourant la thèse de Nadja, je me suis rendu compte que les rapports entre architecture et informatique étaient beaucoup plus anciens que je ne le pensais. Moi, je pensais que la relation s'était tissée à partir des années 80-90 avec la démocratisation de l'informatique personnelle, etc. Mais elle explique que beaucoup plus tôt, dès le début en fait, il y a eu des relations entre architecture et informatique.
En fait, c'est même pas entre informatique et architecture, c'est entre architecture et intelligence artificielle. Vous savez certainement qu'il y a plein de choses en informatique qui viennent d'abord des recherches en intelligence artificielle. Newell et Simon, qui sont parmi les tout premiers pionniers de l'intelligence artificielle, c'est eux qui ont fait le General Problem Solver, qui est le premier programme qu'on identifie comme un système d'intelligence artificielle.
Quelles années ?
Je crois que c'est 56 ou quelque chose comme ça. Newell, il parle beaucoup, beaucoup d'architecture dans ses textes. Et je pense qu'il était parfaitement au courant que l'architecture, c'est un super bon exemple d'intelligence parce que ça assemble plein de manières de penser à plein de trucs différents.
Expliquer.
Il faut décrire certaines choses de manière explicite, il faut dessiner, il faut comprendre la position de l'espace, il faut comprendre comment les gens vont circuler dans l'espace, donc il y a une dimension un peu sociologique. Il y a plein de choses qui se mélangent, il faut faire des maths un petit peu si on veut comprendre la géométrie, il faut faire un peu d'économie si on veut savoir à peu près comment on finance. Aujourd'hui, on dirait qu'il faut travailler sur les aspects environnementaux, donc il faut savoir. L'architecture, c'est un peu un point d'équilibre entre plein d'autres choses, parce qu'en fait, bêtement, c'est les endroits dans lesquels on vit. Et ça implique d'avoir une forme de savoir relativement généraliste. Or, l'intelligence artificielle, son projet initial quand Newell commence à travailler, c'est de capturer dans un ordinateur une intelligence généraliste. Et donc, cette idée que l'architecture, c'est un super bon exemple de comment les humains utilisent leur cerveau, je pense qu'elle est là depuis le début.
Passionnant, ce rapport historique et fort entre architecture et informatique, et même entre architecture et intelligence artificielle, j'ai bien compris, du fait de la nature même de l'architecture. Pour être tout à fait précis, il faudrait remonter le fil de cette histoire, il faudrait raconter le rôle de certains lieux où ce rapport s'est renforcé, comme le Media Lab du MIT ou son père fondateur, Nicolas Negroponte, s'est beaucoup intéressé à l'architecture, mais bon, on n'a pas le temps. Alors, juste gardons un tournant majeur.
Et un jour, il y a un architecte américain qui s'appelle Christopher Alexander qui s'intéressait beaucoup à ces questions-là, à la fois du point de vue de comment on structure le savoir autour de l'architecture pour le transmettre et comment on peut se servir des structures logiques de l'informatique pour faire ça. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Le Pattern Language », donc le langage des motifs, qui est une espèce de catalogue de motifs à assembler pour faire des espaces. Et en fait, la pensée d'Alexander, elle a fait un tabac dans la Silicon Valley, ou ce qui est devenu la Silicon Valley après, et c'est devenu obligatoire dans les cursus d'informatique, en Californie notamment, de lire les livres de Christopher Alexander.
Pour quelle raison? Je ne comprends pas.
Je pense que c'est une manière d'organiser l'information qui est spatialisée et qu'il y a certaines personnes à qui ça parle beaucoup. comment est-ce qu'on représente l'information et comment les architectes qui sont des experts de l'espace travaillent avec le type d'information qu'on trouve dans un ordinateur.
Là, j'ai une épiphanie. Je comprends a posteriori une discussion que j'ai eue dans le métro il y a quelques semaines avec le père d'une petite fille qui est dans la classe de mon dernier fils. Avec ce monsieur, qui s'appelle Mabrouk, hein, on avait déjà discuté une fois l'année dernière, je crois, et je savais qu'il travaillait dans l'informatique. Et donc, on se retrouve là, tous les deux, assis à côté dans le métro, et après avoir déposé nos enfants à l'école, hein, et je lui demande « Mais plus précisément, ton boulot, c'est quoi ?» Et là, il me répond « Architecte ». Alors, moi, je bug. Je me dis « Merde, je croyais qu'il m'avait dit qu'il bossait dans l'informatique. » Alors là, il me dit qu'il est architecte. Alors bon, soit je commence en Alzheimer, soit le mec est complètement mytho. Mais bon, avec une redoutable habileté d'intervieweur, je lui pose quelques questions et je comprends qu'il est bien informaticien, mais qu'il fait de l'architecture des systèmes d'information. En gros, qui dessine des plans de logiciels, de réseaux, de bases de données, etc. Alors je lui dis « Ah bon, alors comme ça, entre vous, vous dites vraiment architecte tout court ?» Il me répond « Ouais, ouais, enfin, avant, en France, on disait plutôt urbaniste, mais avec l'influence américaine, maintenant, on dit architecte. » Sur le moment, je me suis dit bon, que c'était juste une métaphore pour rendre ce métier de geek un peu plus sexy, enfin en tout cas plus compréhensible pour les habitants du vieux monde. Mais là, en écoutant Nadja, je comprends que c'est pas du tout juste une métaphore. Hein. Que cette analogie, elle est la conséquence d'un lien beaucoup plus profond et beaucoup plus ancien. Parce que depuis le début, les chercheurs en informatique, eh ben, ils lorgnent du côté de l'architecture. Newell dans ses réflexions sur l'intelligence artificielle, et puis les ingénieurs de la Silicon Valley en lisant le livre de Christopher Alexander. C'est pas juste pour être sexy donc qu'on parle d'architecture en informatique. Alors, j'en étais à jouir intérieurement de mon épiphanie quand le technicien qui enregistrait notre discussion avec Nadja a surgi là, pour faire une remarque que j'aurais pas du tout pu faire. Il a dit « Eh, mais c'est drôle parce que dans Matrix, il y a un personnage qui s'appelle l'architecte. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport ?» Bon, moi, je m'en souvenais pas du tout. Mais c'est vrai, hein, le personnage de l'architecte apparaît dans Matrix Reload.
Bonjour, Neo.
Qui êtes-vous ?
Celui qu'on nomme l'architecte. J'ai créé la matrice. J'étais impatient de te voir. Tu as de nombreuses questions, et bien que le passage ait altéré ta conscience, tu demeures irrémédiablement humain.
Pourquoi suis-je ici ?
Ta vie est le reste d'une équation déséquilibrée inhérente à la programmation de la matrice. Tu es l'éventualité d'une anomalie qu'en dépit de mes efforts les plus sincères, j'ai été incapable d'éliminer de ce qui est par ailleurs une harmonie de précision mathématique.
Et donc, je demande à Nadja si elle s'en souvient.
Ouais, absolument. Je pense qu'il y a un peu de cette idée d'organiser la vie qui est sous-jacente souvent en architecture parce que le principe de l'architecte, c'est qu'il produit le cadre dans lequel on vit. Ou en tout cas, ils aiment bien se rêver comme ça. Et après, il y a un truc qui est rigolo avec Matrix, c'est que quand on regarde le cinéma de science-fiction, au tout début, il y a une organisation très précise du décor architectural qui dit plein de choses sur ce qu'est la technologie dans l'univers qui est décrit. Et Matrix, c'est la fin du travail sur cette idée-là parce qu'il n'y a plus d'architecture. Et qui se sont débarrassés du truc parce qu'en fait, ce qui est important dans Matrix, c'est les lignes de code et les fonds blancs.
Autrement dit, l'ASF au cinéma, ce sont d'abord des films qui métaphorisent leur discours sur la technologie par l'architecture. On se souvient des bâtiments angulaires et uniformes du Metropolis de Fritz Lang en 1927 et des villes verticales traversées par des métros aériens. On se souvient aussi des pyramides du Blade Runner de Ridley Scott, 1982. Et après ces films et encore beaucoup d'autres films de SF qui incarnaient leurs propos sur la technologie dans des bâtiments, il y a Matrix. Et là, les Wachowski franchissent une étape supplémentaire qui explique sans doute l'extraordinaire influence de leur film. Le monde matériel est évacué. Il n'y a plus d'architecture, juste des lignes de code, parce qu'on ne sait plus ce qui est vrai ou pas. L'architecture matérielle, elle ne reflète plus aucune réalité. L'architecte ne peut être que le concepteur d'un programme qui est la seule réalité possible. En tout cas, c'est la théorie de Nadja, et je la trouve assez séduisante. Mais bon, on s'éloigne du sujet, revenons à l'architecture que nous habitons, hein, qui existe donc elle, qui est bien matérielle, bien solide. Même si le lien entre architecture et informatique est historique, hein, il a quand même fallu un peu de temps pour que se démocratise l'usage des ordinateurs dans les cabinets et les agences. Et donc, je demande à Nadja, question simple, hein, ce qu'avaient en tête les architectes quand ils se sont mis à acheter des ordinateurs. Pourquoi faire et dans quel but se sont-ils dotés d'ordinateurs dans les années 80?
Déjà, je pense que dans les années 80, on s'est dit la même chose que tout le monde. Le personal computer, il n'y a pas que les architectes qui l'ont eu. Il y a un effet d'automatisation du dessin. En école d'archi, tous mes profs ont toujours raconté ça. Quand eux, ils faisaient leurs dessins, s'ils rataient, ils devaient gratter au scalpel et retracer. Et nous, on n'a jamais eu ça parce que, bah, en fait, ça n'existe pas. Quand on dessine à l'ordi, on fait CTRL-Z et ça va. Et ça, bah, en fait, c'est quand même vachement confortable de pouvoir le faire. Il y a le fait de pouvoir visualiser en 3D autrement que par la maquette, même si la différence, elle est vraiment discutable. Je pense qu'il y a des architectes qui sont plus confortables avec le fait de, bah, de plier des petits bouts de carton, et il y en a d'autres qui sont plus confortables avec le fait de modéliser en 3D. Et après, bah, en fait, quand on est plus rapide, on est moins cher. Donc, il y a une conséquence financière qui, de toute façon, correspond à un moment d'expansion du marché de l'immobilier, etc. Où, bah, en fait, quand on est architecte, si on peut faire plus vite, moins cher et avec des beaux dessins, on gagne plus de projets et donc ça marche mieux.
Bon, ça, c'est ce que j'imaginais à peu près comme avantage de l'informatique, hein. Mais quand je demande à Nadja ce qui l'impressionne aujourd'hui, eh ben, elle me parle des programmes d'optimisation qu'on appelle multicritères. Et là, on entre dans une autre dimension quand elle se met à me raconter ce qu'on peut faire avec l'un de ses programmes, Revit, qui est le logiciel d'Autodesk dont elle a déjà parlé au début de notre discussion.
Si on a un terrain sur lequel on veut construire un ensemble immobilier assez large avec plusieurs programmes, donc un centre commercial ou quelque chose comme à la Philharmonie de Hambourg où il y a la salle de spectacle, un centre commercial, un hôtel, un restaurant, etc., on lui donne une série d'espaces qu'il va devoir placer. On lui montre la géométrie du terrain et où c'est géographiquement. Et ensuite, on peut juste cliquer sur « oui » plein de fois et accepter ce que le logiciel propose d'optimiser par défaut. Et ça marche et on se retrouve avec autant de variations qu'on veut qui sont relativement bonnes sur tous les critères que le logiciel a proposé et qu'on a accepté.
Mais le truc, c'est qu'il optimise quoi ? Il optimise les formes, les matériaux, les quoi ? Et tout
là,
en même temps ?
Non, là, il optimise juste la taille des différents rectangles pour savoir qui sera où. Et donc, par exemple, il optimise la hauteur des différents blocs pour être sûr que tout le monde ait de la lumière à l'intérieur du bloc.
Wow. Il peut savoir comment ça va être...
Il suffit d'indiquer où exactement sera l'endroit, ce qui est super facile à faire parce que c'est pareil, on a plein de données cartographiques en ligne, donc c'est pas très compliqué. Et ensuite, il va utiliser les informations météorologiques pour comprendre l'exposition solaire, et donc pour savoir si je mets une super haute tour d'un côté et un tout petit bâtiment de l'autre, ça va pas marcher, donc il faut que je rééquilibre. Et après, en gros, il génère plein de variations avec plein de hauteurs différentes. Et puis, il regarde l'ensoleillement sur tous les blocs. Et puis, il propose à l'utilisateur celle où c'est le plus équilibré.
C'est dingue.
Et ça, pour le soleil, pour la structure, pour l'environnement, on n'est vraiment pas très loin de le faire aussi. C'est des choses qui marchent de manière relativement automatisée. Le problème, c'est qu'à la fin, on a plein de cubes qui se ressemblent tous.
Ça me paraît assez incroyable, ce que fait Revit. Et super utile. Mais est-ce qu'on ne peut pas éviter que tout se ressemble ?
Dans ce cas-là, il faut savoir où chercher dans l'algorithme d'optimisation, dans les paramètres de la modélisation. Et dans ce cas-là, on n'a pas intérêt à dire oui automatiquement à chaque fois que le logiciel propose un truc.
Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que si on laisse faire le logiciel, on se retrouve avec des trucs super standardisés parce qu'en fait, il n'y a pas 10 000 manières d'optimiser.
Il n'y a pas 10 000 manières d'automatiser. Il y a 10 000 manières d'optimiser. On peut faire tout ce qu'on veut parce qu'optimiser l'architecture, ça ne veut rien dire.
Oui, ça dépend du critère.
Exactement. Ouais. Par contre, automatiser, ça implique de faire des choix à l'avance. Parce que ça veut dire qu'on ne veut pas demander à l'utilisateur de faire ce choix, puisque l'idée, c'est que ça soit automatique, donc que l'utilisateur, il n'ait rien à faire. Donc, par exemple, il faut faire le choix que ça va être des bouts de cubes qu'on va tester, et pas autre chose.
Encore une fois, c'est passionnant ce que dit Nadja. Parce qu'on comprend la puissance du logiciel. Si je le laisse faire en cochant toutes les cases, hein, il fait très vite et très bien. Mais il fait très vite et très bien quelque chose de standard. Et là, je vois encore une allégorie de ce principe maintenant ancien qui veut que c'est le programme qui fait la loi. un principe formulé par le grand juriste de Harvard, Lawrence Lessig, au début des années 2000, dans un texte que j'ai cité, je pense, à peu près 40 fois déjà depuis le début du Code a changé. Code is law, le programme informatique fait la loi. Et donc, ce principe s'applique à l'architecture comme à tous les autres domaines. D'où la question. Comment on fait pour ne pas se faire dicter la loi par le programme? Comment on fait pour se préserver de cocher toutes les cases, de répondre toujours oui et de n'obtenir, au final, que des cubes?
Pendant longtemps, j'ai pensé que la réponse était apprendre à coder. Mais c'est pas juste de demander à tous les architectes d'apprendre à coder parce que c'est pas vraiment leur métier.
Pourquoi ce serait apprendre à coder?
Il faut apprendre à comprendre comment un algorithme d'optimisation, par exemple, ça fonctionne. Parce qu'il faut apprendre à comprendre où sont faits les choix d'optimisation et d'automatisation. Et donc, il faut comprendre la structure d'un algorithme. Et comprendre la structure d'un algorithme, ça équivaut presque à savoir coder.
Oui, mais vous êtes revenu sur cette idée.
Bah, en fait, d'abord, il y a un constat qui est qu'en fait, tout le monde ne va pas apprendre à coder. Il y a un constat que je déteste, mais qui est là quand même, qui est que la pression sur les architectes pour être rapide, faire beaucoup de propositions en un temps record, elle est là. Et l'autre chose qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est que ce que je dis, ça veut dire qu'il y a un équilibre à trouver entre des logiciels qui sont faciles et rapides à utiliser et un contrôle que l'architecte peut conserver sur ce qu'il conçoit. Et peut-être qu'il y a d'autres manières de donner un contrôle. On n'est pas obligé de savoir coder pour réagir à une interface qui vous dit de faire attention à tel endroit ou qui vous présente le système en vous disant bah, « en fait, l'algorithme il est structuré comme ça et à tel endroit, il y a une interface qui vous permet de changer facilement tel et tel paramètre ». Il y a un vrai dialogue entre les gens qui font les logiciels et qui écrivent les algorithmes et les architectes qui ne savent pas coder. Peut-être qu'ils ne sont pas obligés d'apprendre à coder. Peut-être que la bonne interface, elle peut résoudre ce problème-là.
D'accord, mais là, je me pose une question. Est-ce que Nadja est une idéaliste qui rêve dans son coin à une meilleure collaboration entre les architectes et les éditeurs de logiciels? Ou est-ce qu'elle se fait, là, le relais des plaintes des architectes eux-mêmes? Enfin, pour le dire autrement, est-ce que les architectes se plaignent des logiciels qu'ils utilisent tous les jours?
Je pense qu'il y en a plein qui ne se rendent pas du tout compte de ce qui se passe.
Mais ça a quoi comme conséquence?
Je ne sais pas si c'est les architectes eux-mêmes, mais le fait que l'environnement bâti il est ultra standardisé et pas forcément le plus agréable à vivre, c'est la conséquence en partie de la manière dont on a conçu nos logiciels.
Ah ouais, vous iriez jusque-là?
Ouais.
Mais parce que les boîtes qui les développent, elles ne sont pas soucieuses de faire attention à l'usage, elles consultent peu les architectes, c'est un peu bizarre, c'est comme s'ils développaient dans leur coin.
Non, c'est qu'ils font des choix stratégiques. Par exemple, je parlais d'Autodesk qui a le monopole qui concerne donc une énorme partie des gens. Autodesk, ils ont fait plusieurs choix. Ils font des logiciels d'animation et de construction. Il faut savoir que Autodesk, c'est un rouleau compresseur juridique. Donc en fait, bah pour donner un exemple très simple, il y a plein de dispositifs légaux sur les logiciels aux États-Unis qui reposent sur des précédents qui sont des procès d'Autodesk avec d'autres gens. Ça veut dire que la loi sur les logiciels aux États-Unis, c'est Autodesk qui l'a fait.
Sur le moment, j'avoue que j'ai pas très bien compris l'enjeu. Mais Nadja m'a expliqué. Elle m'a expliqué que la puissance d'Autodesk était telle aux États-Unis et l'entreprise était tellement procédurière que, à coup de procès gagnés et de jurisprudence, Autodesk avait fabriqué la loi américaine pour l'ensemble de l'industrie logicielle. Ça paraît bizarre, mais en fait, ça se comprend. Autodesk a un quasi-monopole dans le monde de l'architecture et elle est hyper puissante dans le monde de l'animation. C'est-à-dire que l'entreprise a de fait un rôle très important dans deux secteurs phares de l'économie américaine, à savoir le bâtiment et le divertissement. Ça doit donc contribuer à son influence. Mais bon, on pourrait dire que c'est pas très grave ce pouvoir juridique. Sauf que, dans les faits, il a des conséquences très concrètes que Nadja m'explique.
Ils ont 80% du marché, donc c'est un monopole avec beaucoup, beaucoup de moyens. Donc à la fin, quand Revit se répand dans les agences américaines, que ça se passe pas très bien du tout, parce qu'en fait Revit ne rend pas comme logiciel de modélisation 3D les services prévus aux architectes, bah en fait les architectes, ils ont aucun moyen de se plaindre à Autodesk. Parce qu'ils ont investi beaucoup de temps et d'argent pour faire le changement vers ce nouveau logiciel, parce qu'ils sont face à du coup un rouleau compresseur juridique qui a beaucoup plus de moyens qu'eux et qui tiendra. Et donc en fait, il y a une espèce d'effet géant de « bah de toute façon, on peut bien vous faire faire ce qu'on veut parce qu'on domine tellement le marché que vous n'avez pas le choix ».
Ça, c'est une nouvelle allégorie. L'allégorie sur les conséquences du monopole en matière logicielle. Un éditeur de logiciel en position de quasi-monopole, qui plus est quand il est procédurier, peut imposer ce qu'il veut à ses clients. C'est une des raisons pour lesquelles des gens se battent depuis des décennies contre ce pouvoir, par exemple, dans le mouvement du logiciel libre. Encore une fois, ce qui se passe en architecture, ça se passe aussi ailleurs. Sauf que, en architecture, eh ben, ça nous touche de manière intime et durable. Parce que ça touche aux espaces qu'on habite, ou qu'on fréquente pour travailler, pour être soigné, pour faire des courses, etc. Ça touche aux bâtiments qu'on voit, devant lesquels on passe tous les jours, qui donnent forme à notre paysage, et pour longtemps, hein. Parce qu'un bâtiment, c'est pas comme un ordinateur qu'on changera dans 3 ans. L'architecture, c'est aussi une trace qu'on laisse. Il y a beaucoup de civilisations dont il ne reste pas beaucoup d'autres traces que leur habitat. Donc, c'est important. Si l'architecture se standardise, c'est aussi notre vie qui se standardise. Alors, je sais pas à qui il faut en vouloir. Hein. Aux architectes, aux commanditaires, à nous qui nous en foutons, au capitalisme ou à Autodesk. L'analyse de Nadja, heureusement, elle est plus subtile.
Le modèle que Autodesk force les architectes à adopter sur le plan urbain et architectural, c'est pas Autodesk qui a choisi, c'est juste que Autodesk, ils ont décidé que c'était le marché de l'immobilier qui allait dicter la manière dont ils font les choses. Et du coup, eux, leur choix, c'est de suivre ça. Et dans les 20% du marché qui reste, il y a des entreprises qui ont fait le choix inverse.
Ah oui, vraiment ?
Ouais, y en a un qui a un logiciel de modélisation qui s'appelle Rhinoceros. L'entreprise qui édite Rhinoceros, elle s'appelle McNeil et c'est une entreprise qui est possédée par ses employés. C'est une entreprise qui a fait le choix de conserver des prix beaucoup plus bas que Autodesk. C'est une entreprise qui a fait le choix de rendre accessible tout un tas d'outils de code intégrés à leur modeler 3D, notamment pour que les gens puissent apprendre ces logiques-là. C'est une entreprise qui a fait le choix d'ouvrir aussi cette partie de leur logiciel aux programmeurs externes, d'avoir un forum où il y a plein de tutoriels et d'échanges.
Mais qui utilise Rhinoceros ?
De plus en plus en agence, parce que c'est devenu un logiciel qui était pas mal utilisé en école d'archi. Mais il y a 2 ou 3 ans, Autodesk avait 18 millions d'utilisateurs et McNeil, ils ont toujours été entre 1 et 2 millions.
Ah quand même ! C'est pas ridicule, mais c'est pas énorme non plus, hein. Je note juste une chose dans ce que dit Nadja. Une des raisons du succès de Rhinoceros, c'est qu'il est utilisé en école d'architecture. Donc, par des jeunes. Donc, peut-être qu'il y a de l'espoir. Néanmoins, bon, c'est bien beau d'utiliser Rhinoceros plus qu'Autodesk, hein, mais si c'est pour faire les mêmes bâtiments, eh ben on s'en fout un peu. Donc, ma question c'est, est-ce que le logiciel pousse à faire autre chose ?
La grande différence et une des raisons pour lesquelles je pense Rhinoceros a été très aimé à un moment, et une des raisons pour lesquelles les étudiants aussi aiment bien Rhinoceros, c'est que Rhinoceros, ils sont super forts en courbes. Ils ont un modèle mathématique hyper malin pour, en gros, faire des courbes super compliquées qui prennent pas longtemps du tout à être calculées. Du coup, en fait, on a une liberté géométrique qui est pas du tout la même que chez Autodesk. Autodesk, ils ont fait le choix de l'angle droit, si je peux le dire comme ça, alors que chez Rhinoceros, c'est l'inverse. Et donc, par exemple, si aujourd'hui on est étudiant en architecture et qu'on aime bien Zaha Hadid, on a tout à fait intérêt à utiliser Rhinoceros plutôt que Revit.
Et ben voilà, on en revient aux courbes. Elle est maligne, Nadja, hein, parce qu'elle mobilise Zaha Hadid, la grande architecte anglo-irakienne, star mondiale, multiprimée, dont une des caractéristiques était précisément l'usage des courbes. D'ailleurs, je crois qu'on la surnomme Queen of the Curves, la reine des courbes.
The Queen of Curves, that is the term used by The Guardian to describe Zaha Hadid. Taking the world by a storm, Zaha Hadid, or should I say Dame Zaha Hadid, had become one of the most influential women in the world and one of the most recognizable architects.
Hey everybody and welcome back.
Nadja est maligne parce que ça revient à dire aux jeunes architectes, eh ben, vous ne serez pas Zaha Hadid avec Autodesk. Même si j'ai trouvé des tutoriels qui ont l'ambition d'expliquer que ben, on peut faire des courbes à la Zaha Hadid dans la version 2025 de Revit. Mais bon, à la limite, peu importe, ce que je comprends, c'est que la question de la courbe est centrale. Et que, en quelque sorte, eh ben, on a bouclé notre discussion en revenant à son début, quand Nadja me parlait des courbes de Frank Gehry. On pourrait donc s'arrêter là. Sauf que, en lisant et en discutant avec des gens avant de rencontrer Nadja, beaucoup m'ont parlé d'un truc dont j'ignorais complètement l'existence. Le BIM. Et le BIM, ça a l'air de faire pas mal discuter dans la profession. Donc, je demande à Nadja ce qu'est un BIM et pourquoi ça fait discuter. Et bien alors là, j'imaginais pas qu'on allait ouvrir un autre continent.
Le Building Information Modeling, En gros, l'idée, c'est de dire que bah, la géométrie, c'est bien, mais c'est très loin d'être tout ce qu'on peut rassembler comme information dans un modèle 3D. Et donc, en fait, on peut faire des modèles 3D plus, où, bah, d'accord, il y a la géométrie, mais il y a aussi la fenêtre, quel modèle c'est, quelles normes européennes y sont associées, dans quel ordre les choses doivent être montées, c'est qui le fournisseur, c'est qui l'entreprise qui va se charger de poser. Donc, l'idée du BIM, c'est de rassembler, en gros, toutes les informations dont on a besoin sur un chantier pour fabriquer un bâtiment au même endroit.
Ça, quel intérêt, ça ?
Personne n'est jamais d'accord sur un chantier. Moi, mon tout premier stage, je me suis retrouvée sur un chantier d'école primaire où la dalle en béton n'avait pas été coulée au bon endroit. Elle n'était pas droite. Il y avait des trous pour le plombier où le plombier disait « Bah ouais, mais ça, c'est pas là où ils doivent être, mes trous. » Bah, en fait, il faut envoyer un plan différent au plombier, à l'électricien, au mec qui pose les murs, etc. Et donc, en fait, il y a une espèce de dispersion de l'information qui est super difficile à gérer. Et l'idée du BIM, c'est qu'on arrête de faire ça. Parce qu'en fait, tout est au même endroit, tout le monde a accès au même fichier. Si le plombier, il n'est pas content, il peut aller voir dedans qu'est-ce qui se passe et indiquer. C'est le forum géant du bâtiment, quoi. Au lieu que d'avoir un architecte qui fait la forme du bâtiment et qui la donne au plombier qui va modéliser ses tuyaux, au mec de la charpente qui va modéliser la charpente et que tout le monde refasse un modèle différent dans ses propres logiciels qui correspondent à son corps de métier. L'idée du BIM, c'est qu'en fait, tout le monde fait tout au même endroit.
L'usage du BIM s'est généralisé. Hein. Dans les marchés publics, par exemple, la France a décidé de ne pas le rendre obligatoire, ce qu'elle aurait pu faire, mais elle y incite fortement. Mais quand j'entends Nadja me décrire ce qu'est un BIM, eh ben, j'ai l'impression que c'est une révolution, en tout cas dans l'idée que je me fais de la hiérarchie de la construction d'un bâtiment. Parce que dans ma mythologie, il y a l'architecte qui a des idées, telle forme, telle charpente, telle fenêtre. Et puis ensuite, eh ben, le reste des corps de métier suit pour exécuter la volonté du maître ou de la maîtresse. Bon, moi c'est comme ça que je me l'imagine. Mais si tout le monde peut intervenir sur les plans, si l'artisan qui s'occupe des fenêtres peut changer les fenêtres, si le plombier peut bouger la place des tuyaux parce que ça lui va pas comme ça, etc., ben, je me dis qu'on passe d'une autocratie à une sorte d'anarchie. Alors, c'est pas que je préfère l'autocratie à l'anarchie, hein. Enfin, ça me semble quand même un bouleversement de la hiérarchie traditionnelle.
Alors, c'est vrai, mais la hiérarchie du bâtiment, la hiérarchie d'un chantier plus exactement, avant le BIM, c'est pareil. Si l'architecte dit « voilà mon dessin, la charpente elle va être comme ci, comme ci, comme ça », c'est pas l'architecte qui construit, c'est le charpentier. Donc si le charpentier décide que ça va pas être comme ça, la charpente elle sera pas comme ça. La hiérarchie d'un chantier, elle repose exclusivement sur l'autorité de l'architecte. Elle repose juste sur le fait que le charpentier respecte que l'architecte a dit qu'on allait faire ça comme ça.
Le BIM ne modifie pas en elle-même l'autorité de l'architecte, d'accord. Mais alors, je ne comprends pas ce que des architectes ou alors des gens qui réfléchissent à l'architecture reprochent au BIM.
Bah moi, je pense que c'est parce qu'il y a une forme de standardisation. Ce que je vous disais sur la fenêtre, pourquoi on peut reconnaître les bâtiments et leur logiciel, le BIM, c'est ça fois 1000 parce qu'en fait, ça implique que tout le monde met ses produits de construction. Et l'autre chose qui est une hypothèse de ma part, c'est que on a vu que bah en fait chaque modeleur 3D a ses particularités. Et ceux qui sont adoptés pour généraliser le BIM, c'est ceux qui sont les plus standardisés. Par exemple, Revit, dont je parlais tout à l'heure, c'est un des logiciels les plus utilisés pour faire du BIM. Pas Rhinocéros et ses courbes en folie.
Et voilà, encore un effet de la domination logicielle. Même quelqu'un qui utilise Rhinocéros comme modélisateur 3D aura tendance à passer par Autodesk pour faire du BIM. Et donc, retour à la case standardisation. Bon. Maintenant arrive la question qui désormais doit être posée à chaque fois qu'on parle des technos. Et l'IA dans tout ça? Qu'est-ce qui se passe avec l'IA? Qu'est-ce qui va se passer avec l'IA? Alors là, moi, pour faire le malin, bah, je commence en disant à Nadja, bon, alors j'imagine que les algorithmes d'optimisation dont vous parlez tout à l'heure, là, qui vont chercher des données topographiques, qui les croisent avec des données de météorologie, trouvées sur le web, etc., bah, j'imagine que c'est l'IA.
Pas encore.
Ah bon ?
Ce dont je parlais tout à l'heure, les systèmes d'optimisation, c'est des algorithmes qui s'appellent des algorithmes génétiques, qui sont en gros calqués sur le modèle de l'évolution darwinienne.
Attends, mais c'est quoi le rapport ?
L'idée, c'est de faire une population d'individus. Donc, par exemple, je fais 10 000 bâtiments différents et je fais varier certains paramètres. Et après, je donne une note à tous mes individus, à tous mes bâtiments. Est-ce qu'ils tiennent bien ? Est-ce qu'ils utilisent trop de matière ? Est-ce qu'il y a de la lumière partout ? Etc, etc. Et donc, à la fin, tous mes bâtiments de ma première génération, ils ont une note. Je prends tous ceux qui sont les mieux et je regarde c'est quoi leurs caractéristiques et je fais une génération fille. Et je fais ça jusqu'à ce que j'arrive plus à avoir mieux.
Et bim, si j'ose dire, non seulement l'optimisation, ça n'est pas de l'IA, mais c'est un type d'algorithme que je ne connaissais pas. Les algorithmes génétiques. Donc, l'IA en architecture aujourd'hui, elle est où ? Quelle serait son utilisation la plus évidente ?
C'est de générer des plans de manière automatique.
C'est quoi l'intérêt ?
Plus vite, plus facile, c'est toujours ça. Enfin, imaginez si vous êtes promoteur immobilier et que vous n'avez pas besoin d'appeler un architecte pour faire votre prochain immeuble de logement. Et ça, de mon expérience, ça marche très bien pour faire des plans standards, notamment parce que bah, typiquement, ce genre d'exemple de projet, il y en a déjà plein. Or, le principe de l'IA aujourd'hui, c'est d'apprendre par l'exemple. Et tant qu'on reste dans une famille de bâtiments similaires, ou de plans d'appartements, par exemple, ça peut marcher assez bien.
Mais il y a déjà des bâtiments qui ont été construits sans du tout d'architecte ?
Je suis pas sûr qu'ils aient été construits. Par contre, j'ai déjà vu plein d'exemples dans des équipes de recherche de bâtiments qui sont conçus sans architecte, parce que, en gros, c'est l'algorithme qui génère tout seul. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans cette direction-là, donc ça m'étonnerait pas qu'on voit ces choses-là arriver relativement rapidement.
Là, j'interromps Nadja parce que ce qui m'intéresse, c'est moins de savoir où on en est de cette possibilité, hein, que des questions que pose cette possibilité. Autrement dit, Nadja, elle en pense quoi ?
La vraie question, c'est comment est-ce que les architectes veulent travailler par rapport à ça ? Bon, il y a une question aussi collective de comment on veut que l'environnement bâti soit pensé. Le problème de l'IA, c'est qu'elle répète ce qu'on lui apprend. Donc si on ne veut pas standardiser à quoi ressemblent nos rues, on a intérêt à y réfléchir. Si collectivement, on est d'accord pour que nos rues ressemblent à peu près partout à la même chose, pour peu qu'on ait assez de lumière et que ça ne s'effondre pas, peut-être qu'on peut faire comme ça. Bon, moi, je suis architecte, alors ça m'attriste un peu, mais en soi, c'est tout à fait possible.
En effet, ça dépend de ce qu'on veut. Et encore une fois, on peut voir dans ce que dit Nadja une allégorie, parce que sa réflexion s'applique à bien des champs. Avec mon collègue du Nouvel Obs, Pascal Richer, on a fait dernièrement une expérience assez troublante. On avait interviewé Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances grec. Comme on était assez pressé pour publier l'entretien sur le site du Nouvel Obs, on a testé le programme de retranscription de Slack, qui est l'appli qu'on utilise tous les jours au journal. Donc, on a filé le fichier son à Slack, qui, en quelques minutes, nous a rendu la transcription écrite de l'entretien. Et franchement, le résultat était vachement bon. Je peux même dire que pour la première fois, j'ai été impressionné par un logiciel de speech-to-text. C'était cohérent, les phrases étaient bien faites, il n'y avait pas de confusion de mots, pas d'erreur apparente, alors nous, on s'est mis à bosser dessus. Mais assez vite, on s'est aperçu d'une chose étrange. Il manquait des choses que Varoufakis avait racontées. Il manquait des idées, il manquait des digressions, il manquait même des exemples. C'est-à-dire que la machine avait fait des choix. Sans doute pour préserver la cohérence du propos, et dans ce sens, c'était réussi d'ailleurs. Mais une partie de ce qui manquait était souvent ce qu'avait fait le sel de l'entretien. Des détails qu'on a été obligés de réintroduire parce qu'ils rendaient la discussion plus humaine, plus drôle, plus paradoxale parfois. Parce qu'il apparaissait dans ces détails des sous-entendus, des allusions que le programme n'avait pas perçues. Comme si un niveau de la discussion avait disparu. Eh bien, c'est pas loin de ce que raconte Nadja. L'IA nous fait gagner du temps. Elle nous fait gagner de l'efficacité, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Est-ce que les rues vont pas toutes se ressembler si on les laisse faire par des IA, comme les entretiens se ressembleraient tous si on les laissait faire par une IA ? C'est une question quand même. Alors évidemment, on est du côté de Nadja quand elle dit que ça la rend un peu triste. Mais est-ce qu'il n'y a pas des usages de l'IA qui seraient, je sais pas, plus vertueux, plus intéressants ?
L'IA, elle a un problème là maintenant, c'est que l'IA, elle est super forte avec les mots et les images, mais l'architecture, c'est pas des mots et des images.
Ouais.
Enfin, vous voyez comment ça marche. Je montre 120 millions d'images de chats à mon IA, et après, quand elle voit une image de chat, elle peut me dire « c'est un chat ». Mais ça marche pas très très bien si on lui montre plein d'images de maisons.
Ah ouais, mais pourquoi ?
Aujourd'hui, il nous faut plein d'exemples d'un même truc. Et le problème, c'est que comme les architectes travaillent tous différemment, les supports sur lesquels sont montrés les bâtiments changent tout le temps. Est-ce que c'est des images ? Est-ce que c'est des fichiers vectoriels où on a des courbes qu'on peut manipuler ? Est-ce que c'est des modèles 3D ? Est-ce que c'est des photos ? Ok, on a des centaines de milliers d'exemples de maisons, mais elles sont jamais vraiment montrées pareilles. Et donc, si on demande à l'IA de générer une maison, en fait, il n'y a pas vraiment d'exemples qui soient suffisamment similaires les uns aux autres pour qu'ils puissent faire une proposition qui est vraiment viable. C'est un peu ce truc qu'on a vu beaucoup il y a un certain temps maintenant, où l'IA ne savait pas représenter les mains sur les images, parce que c'était jamais vraiment structuré de la même manière. Et l'autre chose, c'est que, d'accord, on a plein de photos de bâtiments, mais en fait, toute la question avec l'IA, c'est comment on décrit les photos pour pouvoir entraîner l'IA. Et il n'y a pas d'architecte qui décrit les photos. Donc en fait, tout ce qui est important en architecture n'est pas dans la description de l'image.
Je comprends pas.
Aujourd'hui, si vous prenez à peu près n'importe lequel des générateurs d'images automatiques et que vous lui dites « dessine-moi un bâtiment de Mies van der Rohe », donc Mies van der Rohe, c'est cet architecte moderne qui est très connu pour notamment le plan libre. On fait reposer toute la structure sur, par exemple, des piliers, et comme ça, on n'est pas obligé de mettre des cloisons. Et Mies van der Rohe, il est super connu pour ça. Mais si vous dites à un générateur d'images, fais-moi une maison de Mies van der Rohe, il y a 2 chances sur 3 pour qu'il vous montre un truc où, ok, tout est dans une structure un peu rectangulaire, comme Mies van der Rohe fait, mais où il n'y a que des murs fermés. Des gros murs solides qui sont exactement ce que Mies van der Rohe fait pas.
Pourquoi elle comprend pas l'IA?
Bah parce que personne n'a expliqué sur les images, ça c'est une image de Mies van der Rohe parce qu'on voit le plan libre. Il y a peut-être marqué ça c'est Mies van der Rohe, mais il n'y a pas du tout d'explication du dispositif spatial qui correspond. Et du coup, c'est impossible pour l'IA de générer un dispositif spatial si au départ on n'a même pas expliqué ce que c'est.
Encore une allégorie, mais cette fois-ci sur les données d'entraînement des IA. Pour que les IA apprennent bien, il faut de bonnes données. Or, si je comprends bien Nadja, en architecture, on a plein de photos, certes, mais c'est assez pauvre, une photo. Ça permet à la machine d'identifier une maison, éventuellement d'en produire des variantes stylistiques, mais sans atteindre à la subtilité de la structure, par exemple. D'autant que, et c'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé, la variété des autres supports qui pourraient informer sur la structure, elle est grande. Photos de maquettes, plans, fichiers vectoriels, etc. Comment bien entraîner une IA avec des supports aussi différents, aussi peu standardisés? C'est comme si on filait à une IA chargée d'identifier un chat sur une photo, des coupes anatomiques de chat, des photos de son squelette, etc. Bon, bref, si j'en crois Nadja, ce n'est pas si simple que ça de bien utiliser l'IA en architecture. Mais alors là, moi je vois un paradoxe. Parce que depuis le début de l'intelligence artificielle, comme Nadja me l'a expliqué, on se dit qu'elle pourrait aider l'architecture. Et puis, maintenant que l'IA fonctionne à peu près comme on pouvait en rêver à ses débuts, on comprend que des pans entiers de l'architecture lui échappent.
Mais l'IA, elle marche pas du tout comme on l'a rêvé au début. Il y a un super bel article de Dominique Cardon et de deux de ses doctorants dessus, qui s'appelle « La revanche des neurones ». Et il raconte très bien comment, au début, l'IA, c'est ce projet philosophique merveilleux d'avoir un esprit artificiel. Et comment, en fait, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est de la fonctionnalisation. Donc, on est super fort pour faire ce que, je crois, Searle appelle des IA faibles, qui ont une fonction, donc reconnaître des chats. Mais par contre, l'IA forte, qui est capable de gérer plein de tâches différentes, on sait toujours pas le faire et on n'essaye même plus de le faire, d'ailleurs. Il faut une IA forte, il faut une vraie IA, entre guillemets, pour faire de l'architecture.
Quand même, elle pourrait servir à remplacer les architectes, mais pas faire de l'architecture au sens le plus...
On n'en a plus de mots parce qu'il faut définir l'architecture et il faut définir qu'est-ce qui est de la bonne architecture et de la mauvaise architecture. Et ensuite, on devient à la fois un peu trop général et un peu injuste. Mais c'est une vraie question et c'est pour ça que j'aime bien le numérique et son lien à l'architecture, parce qu'en fait, on finit toujours par poser cette question-là. C'est quoi l'architecture et comment on la décrit ?
Donc, si je résume grossièrement ce que dit Nadja, on en arrive à la conclusion suivante. Si on considère que l'architecture, ça consiste à produire des bâtiments optimisés selon les critères du marché et relativement standards, on pourra se passer assez vite d'architecte. Mais si on considère que l'architecture, c'est autre chose, néanmoins j'aurais du mal à dire quoi, on en est loin. On en est loin parce qu'on revient à cette intuition qui fut celle des pionniers de l'IA dans les années 60. On a sans doute, avec l'architecture, un modèle d'élaboration très complexe, mobilisant plein de savoirs, plein de critères qui nécessitent une intelligence multiple et forte. Et ça, l'IA d'aujourd'hui, elle en est encore incapable. Mais je comprends autre chose dans ce que Nadja dit. Certes, comme dans beaucoup d'autres secteurs, l'IA est un enjeu. Mais avant même l'IA, il y a plein d'autres lieux où le numérique intervient. Les modeleurs 3D, les BIM, les programmes d'optimisation, la commande numérique des machines, etc., etc. Plein d'autres lieux, donc, où le numérique a déjà fait évoluer considérablement le travail des architectes et des différents corps de métier qui participent à la construction des bâtiments. Et là, je me dis que l'architecture, c'est peut-être le champ parfait pour exprimer ce que je ne fais que constater depuis 5 ans que je fais le code à changer. Quand on essaye de comprendre comment le numérique affecte nos vies, il faut essayer de prendre en considération toutes les couches par lesquelles il impacte nos vies. Et dès lors qu'on fait ça, on constate d'abord que ces couches, elles sont super nombreuses, depuis le matériel qui sert à fabriquer nos machines jusqu'aux conséquences que ça a sur nos cerveaux. Et on constate que les effets sont différents selon les couches qu'on examine, et parfois même contradictoires. C'est donc ce qui rend très difficile ce travail qui consiste à cerner les changements et à leur donner leur bonne mesure. À chaque fois, j'ai l'impression de faire que l'esquisser. Et avec Nadja, j'ai l'impression qu'on a parlé de plein de trucs, mais qu'il y a encore plein de trucs dont on n'a pas parlé. Il y aurait encore énormément à dire sur le numérique et l'architecture. Alors, pour conclure, je préfère laisser le dernier mot à Franck Guéry, dont Nadja a beaucoup parlé. C'était en 2017, il était longuement invité à discuter au Centre Pompidou à Paris, et à un moment, Franck Guéry a parlé de ce qui est devenu l'usage de l'informatique en architecture.
Now, what happens is the world, according to Cervantes,
le monde, selon Cervantes, finit toujours par se planter, non ? Donc, ce qui est un outil fabuleux pour l'architecte est devenu une béquille. Beaucoup de gens l'utilisent et laissent l'ordinateur concevoir des formes. Donc, chaque logiciel a une signature. Si vous utilisez le mien, on le reconnaîtra. Si vous utilisez Rhinocéros, on le reconnaîtra. Si vous utilisez celui de quelqu'un d'autre, ça se verra. Tout ça nous ramène au dessin. Mon dessin est complexe. Je peux faire un dessin comme ça, d'un seul trait. Mais il a plus de puissance si on le met sur un ordinateur à une plus petite échelle, où on peut faire plus dans le détail. Une fois que vous l'avez mis à une échelle plus petite, vous pouvez passer à la grande échelle, qui donnera plus de liberté. En d'autres mots, il faut utiliser l'ordinateur pour sa propre créativité. Pas laisser l'ordinateur être le créateur.
Un grand merci à Nadja Godillère-Jamy, mais aussi à Françoise Fromono et Isabelle Régnier. À la prise de son, c'était Mélissa Étroit et Gaspard Guy Bourget, auteurs de la question sur Matrix. Au mixage, Basile Bocquer et Baptiste Collion. Réalisation, Séverine Cassard. C'était Le Code a changé, un podcast original de France Inter.